Tous, vous êtes actuellement en direct sur la radio de Vassivière avec les élèves de 3e prépa métier au lycée de Delphine Gay à Bourganeuf.
Nous allons vous lire des extraits du texte de Joris Rodriguez, Métère fauve. Ce podcast a été créé en collaboration avec Radio Vassivière, Instant Libre et Nicolas Porcher.
J'avais laissé derrière moi Paris. Je savais ce que je quittais. C'était bien plus qu'un petit appartement sous les combles de Strasbourg-Saint-Denis. C'était plus aussi que la simple fin de ma vie étudiante. Au fil des rails, mon ambition se précisait. Je rentrais chez mes parents pour leur dire ce que ce voyage était en train de révéler. Je rentrais pour dire, solide et sûr dans le regard dur de mon père, que je ne rentrerai pas. Je rentrais pour dire que je ne rentrerai pas. Je sentais ma vie ailleurs. Loin des préoccupations millénaires de la ferme, loin de mon destin de propriétaire terrien. J'ai vu mon éducation, l'enfance et l'héritage tromper mon désir. Je me suis vu glissant à presque 300 km/h entouré de visages inconnus. Et j'ai senti, dans un frisson qui hérisse les poils, tous les possibles que présente l'existence. J'étais en train de choisir le goût de tout le temps qu'il me restait à vivre.
Le TGV numéro 4682 en direction de Perpignan Centre d'Elmoun partira voie 9. Il déserte les gares de Valence TGV, Lyon-Saint-Exupéry, Nîmes, Montpellier-Saint-Roch, Narbonne, Le Carte, La Franquille et Perpignan terminus du train.
h 24. Dans le train, un homme d'une cinquantaine de poivre et sel s'avance et contrôle le QR code de mon e-billet que son boîtier SNCF a du mal à flasher.
Attendez, je vais vous retrouver dans les fichiers avec votre carte voyageur. Qui êtes-vous ?
Qui suis-je ?
Votre nom, votre prénom. Date et lieu de naissance.
Je m'appelle Elias Liel Ramos, je suis née le 2 juillet 2000 à Perpignan. J'ai eu l'impression de lui mentir. Qui suis-je ? La question est bête et me semble sans réponse.
Tu es Iliès, né en césarienne, quelques minutes avant que le but de Trezeguet offre à la France la Coupe des Championnats d'Europe.
Tu as grandi à Gloriane, un petit village de 150 habitants, situé à 800 km d'altitude, sur les remparts du Canicou dans les Pyrénées-Orientales.
Ton frère Guilhem est né 4 ans et 11 jours plus tard par voie basse. C'est à peu près la seule chose qui vous différencie.
Ta mère Maria est immigrée espagnole.
Ton père, Luis, agriculteur catalan.
Tu n'as su lire qu'en CM1, tu refusais catégoriquement avant. Ta petite scolarité a été le motif.
De la dépression de Madame André, sa maîtresse d'école, de la démission de Joël Deschaune, le directeur de l'école Jules Ferry.
Tu reconnais également être l'auteur d'une dizaine de cicatrices.
Morsures, jets de projectiles tranchants, ciseaux, compas, agressions à la scolastique, UU, tentative d'enfouissement de la petite Lola dans le bac à jardiner, des parties communes de l'école et j'en passe.
Ton enfance s'est déroulée sans encombre, notamment grâce aux 15 hectares de forêt qui entourent la ferme agricole de tes parents.
Tu es gaucher, mais écris de la main droite.
Tu n'es pas très grand, brun aux yeux verrons. Tu as hérité du physique des Los Moros, les morts d'Espagne diffèrent ta mère.
Tu n'as jamais eu de style vestimentaire particulier. Tu t'habilles de ce que tu trouves et ce que tu trouves te va bien. Tu avais trop de cheveux et un appareil dentaire, ce qui n'a pas empêché Lola de te dépuceler à 17h entre deux voitures sur le parking du collège.
Tu étais en 5e 8.
Tu n'étais ni un télo ni petite frappe, plutôt influençable et consensuel.
Tu as toujours eu des rapports difficiles avec ton père. Tu es l'aîné, c'est avec toi qu'il a appris à être parent.
Enfant, il a posé sur tes épaules le poids de l'héritage familial et toute sa croyance et ses espoirs.
De père, de gérant d'entreprise, de fils d'immigrés républicains espagnols, son regard et son silence disent qu'il compte sur toi.
Tu obtiens ton bac avec les félicitations du jury et malgré les encouragements de tes professeurs à entreprendre tes études de médecine. Écoute ton père et quitte ta région pour faire une licence pro gestion des organisations agricoles et agroalimentaires à Paris.
Tu y as vécu depuis une vie étudiante de fait et d'excès. Tes facilités scolaires te permettent de n'étudier que peu pour obtenir tes partiels. Tu es avide d'expérience, de découverte, veux tout connaître et tout comprendre.
Tu adores Rameau, Damso et Céline Dion, que tu n'écoutes qu'après avoir retiré la pile AA de l'horloge du salon.
« 7h55, en fait, Xavier Dubreuil, le contrôleur, se fichait pas mal de qui j'étais. Il lui fallait un billet valide et il l'avait trouvé. J'étais à nouveau seul derrière le graffiti à cab de la fenêtre de la voiture 8. Seul face à moi-même et ma destinée pour encore 896 km, 49 arrêts et deux correspondances. »
10h35, j'ai le temps de réfléchir, de penser peut-être trop, je sais ce que « revenir » signifie. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie familiale. Ils m'attendent tous pour reprendre l'exploitation agricole de mon père.
11h08. Thomas fait sonner mon téléphone environ toutes les 45 secondes. On s'écrit des futilités de la plus haute importance. Je fais bien attention de lui répondre dans la minute. Je n'ai aucune envie de provoquer une énième guerre froide. Alors qu'on se retrouve dans quelques heures, Thomas, c'est le mec avec qui je couche. Trop pudique pour dire que c'est l'homme de ma vie, même si ça ressemble à la vérité.
Et maintenant, l'interview de Joris Rodriguez.
Salut Joris, ça va ?
Salut.
Salut. On va t'interviewer par rapport à ton texte « Mes terres fauves ». Du coup, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton texte ?
Alors, comment vous parlez de ce texte ? Ben, c'est un texte que j'ai écrit l'année dernière et qui parle de l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ilyes, qui a à peu près 20 ans, c'est pas trop son âge, mais il est un jeune adulte, et il rentre dans la ferme agricole de ses parents pour reprendre l'exploitation familiale. Et donc en fait, toute la pièce est un voyage en train, on part de Paris, on retourne dans le sud jusque sur le seuil de cette maison familiale, et Ilyes se pose un certain nombre de questions, notamment liées à l'héritage, est-ce qu'il va reprendre ou non la ferme de ses parents ? C'est un peu toute la fiction que je vous ai partagé. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Oui, moi, j'en ai une. Pourquoi tu as choisi Mes terres fauves comme nom ?
Alors, c'est très difficile de choisir un nom pour une histoire. En fait, l'histoire, le titre n'est pas très important pour moi, mais j'avais quand même envie qu'on comprenne que la terre était au centre des questionnements d'Iliès. Tu vois ? C'est vraiment... ces questionnements-là, comment dire ? Ils apparaissent dans un milieu agricole, et ça c'est assez important pour l'histoire. Parce que c'est pas dans n'importe quel milieu qu'il y a une relation à l'héritage qui est aussi forte et aussi présente, notamment chez les jeunes adultes, parce qu'il y a cette question d'héritage. Est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on hérite de l'entreprise de nos parents ? Donc je voulais vraiment qu'il y ait, le mot terre au centre du titre, et après fauve, parce que chez nous, dans le sud, la terre, elle a un peu cette couleur-là. C'est une terre très ocre, très marron, très chaude. Et donc c'est pour ça, c'est en hommage notamment à la terre de mes grands-parents.
Ok.
J'avais une question.
Dis-moi.
Pourquoi t'as écrit cette histoire ?
Pourquoi j'ai écrit cette histoire ? J'ai écrit cette histoire parce que l'école du théâtre de l'Union m'a demandé d'essayer d'écrire une pièce à destination de lycéens. Et donc, quand on m'a dit ça, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des lycéens pour parler avec eux, essayer de comprendre un peu quels étaient leurs rapports au théâtre. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit que, d'abord, ils n'y allaient pas beaucoup, parce qu'ils n'avaient pas trop d'intérêt d'aller au théâtre. Donc, du coup, on a parlé d'histoire. Je leur ai demandé comment ils faisaient, est-ce qu'ils aimaient qu'on leur raconte des histoires, et si oui, comment. Et donc, on m'a beaucoup parlé des plateformes de streaming. Et en fait, c'est vrai que maintenant, avec Netflix, Amazon Prime et tout ça, vous avez accès facilement, toutes et tous, à beaucoup de fiction, de contenu fictionnel. Et donc, je me suis dit que si je venais vous raconter une histoire, il fallait qu'elle soit un peu différente des histoires qu'il y a déjà sur les plateformes de streaming, tu vois. Et donc, du coup, j'ai choisi d'écrire celle-ci. Et en mon sens, ce qu'elle a de différente, c'est qu'elle parle notamment d'une jeunesse qui est un peu marginalisée, parce qu'on ne parle pas beaucoup du milieu de l'agriculture, notamment sur les plateformes. Et en plus de ça, avec ces grandes thématiques qui sont les thématiques de l'orientation, l'orientation professionnelle, hein, que faire de sa vie, l'orientation personnelle, où vivre, où habiter, où choisir, de s'installer, quoi. Et l'orientation sexuelle aussi, comment assumer sa propre orientation sexuelle. Et donc voilà, c'est un peu toutes les grandes thématiques qui m'ont poussé à écrire cette histoire-là.
Moi, j'avais une autre question. Depuis quand tu as commencé à écrire des textes ?
Ça, c'est mon troisième texte. Mais pour l'instant, mes textes, ils n'ont jamais été imprimés encore. Ils n'ont jamais été édités. Pour l'instant, je les ai écrits uniquement pour moi et pour travailler avec mon équipe de comédiens. Et celui-là, c'est le troisième. Voilà. Et donc, du coup, ça fait, ça doit faire 3 ans. En fait, il y en a eu un par an ces 3 dernières années.
Moi, j'ai une question, parce que du coup, ça se passe dans le train pendant qu'il rentre chez lui. Mais pourquoi tu as choisi le train et pas autre chose ?
J'ai choisi le train, ça c'est une très bonne question. J'ai choisi le train parce que dans le train, en tout cas, moi, mon rapport au train, il a beaucoup existé parce que, un peu comme le personnage principal, je suis parti de chez moi après le bac pour aller faire des études ailleurs, dans une grande ville. Et donc, du coup, j'ai beaucoup pris le train. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au début, je prenais beaucoup le train au début de mes études. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mes études supérieures, je le prenais de moins en moins parce que j'avais de moins en moins le désir de rentrer chez mes parents. Et donc, ces périodes de train-là, comme elles étaient de moins en moins nombreuses, à chaque fois, c'était des moments un peu importants où j'avais le temps, moi, de me retrouver seul, de rêver, de dormir, de penser à ma vie. Et de me poser aussi beaucoup de questions, notamment des questions qui sont aussi celles du personnage principal, c'est-à-dire où va ma vie, pourquoi j'ai choisi de partir de la terre sur laquelle j'ai grandi, est-ce que j'aurais envie d'y retourner. Et voilà, c'est pour ça. Le train, ce qui me plaît dans le train, c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous, on voyage tous ensemble, que généralement pas beaucoup de personnes se parlent et que tout le monde rêve un peu dans sa tête. Et je trouve ça assez poétique de se dire qu'on est tous dans un même wagon et qu'on n'est pas forcément en contact. Et pourtant, on pense tous à plein de choses différentes. Voilà. Et donc, dans une des têtes des personnes de ce train, il y a peut-être le type de questions qu'on retrouve dans la pièce.
D'accord. Moi, j'avais une autre question.
Dis-moi.
Pourquoi ? Enfin, est-ce qu'il y en aura une autre histoire derrière cette histoire ? À la suite, quoi.
Alors, est-ce qu'il y aura, tu veux dire, un deuxième épisode ?
Oui.
Alors, non, je pense pas. Je pense pas parce que je l'ai pas écrit comme une série. Je voulais qu'il y ait un début, un milieu et une fin, et qu'à la fin de la pièce, on arrive à la fin de l'histoire. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, que on peut se demander ce qui va se passer ensuite. La fin est assez ouverte. Mais même si dans la fiction, la fin est assez ouverte, il y a quand même une boucle de sens qui se termine. Il part de la grande ville, de là où il fait ses études, le personnage principal, et il arrive jusqu'à la maison de ses parents. Et donc, en ça, le voyage s'arrête. C'est pour ça que je n'ai pas prévu d'écrire de suite.
Moi, j'avais une question. Du coup, par rapport au personnage principal, je voulais savoir si... Si tu écris une suite, est-ce qu'on saura si le personnage principal sort avec Lola ou Thomas ?
Ah là là, la question, c'est marrant. Vous me l'avez beaucoup posé cette question. Et à chaque fois, je me dis, mince, comment ça se fait qu'on a autant envie de savoir la suite? Bon, c'est chouette. Ça veut dire que quelque part, il y a des questions qui restent en suspens à la fin de la pièce. Et en même temps, je me demande toujours pourquoi est-ce que cette question-là est quand même assez importante. Et ça, je ne sais pas trop. Alors, je pense que, effectivement, c'est parce qu'on est très curieux et qu'on a envie de savoir quel chemin Iliès va prendre. Et à la fois, je crois, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai écrit, je crois que même Iliès ne sait pas exactement, en fait. Il ne sait pas exactement ce qu'il va faire, en fait. Parce que, bon, on peut faire un gros spoiler, hein, mais vous l'avez lu, à la fin de la pièce, quand il arrive chez lui, tout a brûlé. Et donc, du coup, cet incendie, qui est quand même une grosse catastrophe, il va obliger Iliès, et notamment sa famille, à se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, comment reconstruire? Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'ils vont vendre l'exploitation? Est-ce que c'est Guillaume, le frère d'Iliès, qui va le reprendre? Est-ce que tout seul ou pas? Effectivement, on pourrait se demander, est-ce que Thomas et Iliès vont rester amoureux? Est-ce qu'être amoureux en zone agricole, c'est possible? Et si ça l'est, est-ce que c'est facile? Est-ce que face à ces difficultés-là, Iliès préférera retenter, ou du moins, je ne sais pas, essayer de peut-être renouveler une histoire avec Lola? Si c'est le cas, comment Thomas réagirait? Enfin, c'est un tas de questions, quoi. Mais c'est un tas de questions qui sont ouvertes, notamment pour que nous, on se les pose. Et en fait, je suis super content que vous me la posez, cette question. Et à chaque fois, je suis assez désolé de vous dire que je ne sais pas et que c'est bien que ça fasse son chemin dans vos têtes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Si on fait deux choix, tu m'as parlé de l'histoire de Thomas et l'histoire de Lola. Tu préférais qu'il y ait si... Il continue son histoire d'amour avec Thomas ou tu préférais qu'il parte avec Lola?
Franchement, je pense plus avec Lola. Je trouve qu'ils ont plus de complicité parce que avec Thomas, ils ont une complicité, mais c'est plus basé sur souvent des disputes, c'est ce qu'ils disent dans le texte, je crois bien. Et que souvent, ils s'insultent, du coup, c'est drôle, hein, mais je trouve qu'il a plus de complicité. Et avec Lola.
Ouais, je comprends. C'est vrai, hein, ils ont une histoire très passionnelle tous les deux, du coup elle est un peu moins saine que l'histoire qu'ils créent avec Lola. Ils s'insultent beaucoup, ils se tapent, c'est écrit dans la pièce, et en même temps c'est un peu la différence entre la passion et l'amour. Là on comprend que c'est vraiment une relation très passionnelle. D'ailleurs elle oblige cette relation-là, les deux personnages, Iliès et Thomas, à se dépasser, c'est-à-dire à assumer cette relation, à la porter au grand jour, à assumer que c'est une relation homosexuelle et que finalement, bah, ils sont prêts à tout pour vivre cette histoire d'amour. Et en même temps, on comprend dans la pièce que Thomas n'a pas les mêmes désirs qu'Iliès. Thomas, il voudrait plus une vie tranquille, là où Iliès, il a envie de voyager, de partir, de rêver. Et donc, c'est vrai que quand Iliès retombe sur Lola, bah voilà, Lola, elle lui dit qu'elle aussi, elle a envie de voyager, de partir. Donc, je comprends. Et en même temps, est-ce que Lola, ils étaient amoureux quand ils étaient... en école primaire ensemble.
Oui, je crois que c'est ça.
Donc en fait, ce serait revivre un amour qui a déjà existé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mal? Par-delà le bien et le mal? Est-ce qu'on s'en fiche? Je sais pas.
Merci Joris d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Je suis ravi d'avoir partagé ce petit moment avec vous.
Nous aussi.
Merci.
De rien Joris. Au revoir Joris.
Oh, bonne journée.
Monseur 45. Allô, allô, tu m'entends? C'est moi.
Je sais que c'est toi. Je t'entends mal.
C'est normal, je suis dans le train. J'avance.
Enfin? Tu arrives à quelle heure? Je viendrai te chercher à la gare avec la Mehari de papa.
Tu as ton permis, toi, maintenant?
Non.
Je viendrai à pied. C'est bon, ne t'en fais pas. Ça me fera du bien de marcher.
Ben, tu marcheras plus tard parce que je viens te chercher. Tu arrives à quelle heure?
Justement, je ne sais pas exactement.
Tu sais bien à quelle heure ton train arrive?
Je vois Thomas à Narbonne à midi. Il y a une escale.
Maman pensait que tu mangerais avec nous. Elle se levait à 6 heures, allumait la cafetière, faire deux tours de clé pour ouvrir la porte d'entrée, la croix du mythique calendrier à chatons, appeler la tante Rita, sa sœur de Valencia, allumer la radio fréquence 101.6, France Bleu Roussillon, arroser les plantes de la verrière.
avant le lever du soleil. Faire griller 2 tartines pour le petit déjeuner de papa. Puis, elle a commencé à cuisiner en écoutant les mêmes chansons depuis 30 ans. En tout cas, ça sent la bouffe jusqu'à Serrabonne.
Une fouetta ?
Quoi d'autre ?
Et merde.
C'est pas grave, je lui dirai. Par contre, je ne compte pas sur toi pour les abricots cet après-midi, si je comprends bien.
Désolée.
Le vieux tracteur Renault est mort. Le bleu ciel, tu sais ? On fait les 6 hectares à pâte cette année.
Sérieux ?
Ouais.
Guillaume, si tu écoutes, papa, tu vas toujours tout faire à pied et à la main.
Mais je sais.
Il saoule, putain. Il sait très bien comment faire pour le Renault.
Je sais.
Tu as nettoyé le carbu ? C'est pas la première fois. Il est capricieux. Faut lui faire la toilette tous les mois.
J'y connais rien, moi, en méca. On regardera quand tu seras là.
Ok.
Franchement, ça devient impossible sur les terres. Chaque semaine, si une machine tombe en panne. Faudrait tout remplacer. On ne peut pas faire tout le taf à la main. En plus, papa, avec son dos, c'est moi qui me tape tout. Si ça continue, dans 10 ans, c'est moi qui ne pourrai plus marcher. Le fissurateur, il y a 2 ans. Le sémoir et le décompacteur en automne. Cet hiver, c'est le module arracheur de pommes de terre qui est mort. Et maintenant, le Renault bleu. Ça fait 15 jours qu'on fait le ramassage des abricots à la main. Comment tu comptes faire pour les vendanges ? Nos porteurs, ils ne viendront pas en masse, à pied, vu ce qu'on les paye, putain. Il faut que tu reviennes et qu'on se débrouille pour investir là, c'est plus possible.
Oui, je sais, je sais. Ça va, j'arrive ce soir, tout va bien, ok ? Et frérot, ça va aller. On verra avec papa demain. En attendant, repose tes mollets.
Tu me diras quand tu débarques.
Oui, je t'appelle après manger.
Hey, un bisou à monsieur.
Je n'y manquerai pas. Lui, c'est Guillaume Léal Ramos, mon petit frère. Quand je suis partie du domaine après mon bac, il a assuré comme un chef. C'est lui qui tient l'exploitation à bout de bras, le vieux avec son arthrose et ses problèmes de dos. À part ouvrir sa gueule, il ne pourra bientôt plus rien faire. Il a du courage, mon frère.
Un projet réalisé par les 3e prépa métiers du lycée professionnel d'Elfingué de Bourganeuf.
Le texte « Métaire fauve » a été sélectionné par notre classe.
Ce podcast a été écrit en collaboration avec Radio Vassivière, Instant Libre et Nicolas Porcher.